Es más, 10%. De más consciente. Comme le sujet central qui a été donné pour ce deuxième séminaire, c'est-à-dire les causes profondes du déluge, si vous voulez, mais comme conséquence de ce qui s'installe dans l'histoire humaine à partir de Caïn et Abel, ce qui était leur premier séminaire de l'année, se souviennent un peu du problème. Et d'autre part, vous avez toute une série de conférences autour du sujet même, de la vision catastrophique de l'histoire, ce sera le sujet des autres conférences générales. Bien. Maintenant, le troisième séminaire de la fin de l'année, s'il a lieu, ça dépend de ce qui passera en Pologne ou ailleurs, c'est pas facile, sera consacré à un sujet beaucoup plus optimiste, c'est-à-dire l'aspect des constructeurs et pas des destructeurs, et bien ce qui apparaît dans l'histoire humaine avec la figure d'Abraham. Donc ce sera un séminaire beaucoup plus large consacré à Abraham, et je pense que ce qu'on fera l'affaire avec des enseignants des autres traditions, pas seulement de l'Église.
Et si tu serais à peu près quand, en juillet, c'est pour mon congé.
On ne sait pas encore. Mais vous le saurez avant la fin de saison. Maintenant, pour les cours du matin, j'avais pensé primitivement faire des midrashim sur le déluge. Et finalement, j'ai changé un peu de perspective. Et j'ai choisi une série de midrashim et l'enseignement du Maharal sur le passage de la mer Rouge. C'est-à-dire, c'est un exemple de situation catastrophique beaucoup plus restreinte apparemment, mais qui est un peu du même ordre d'idée. Et on commencera donc à partir d'aujourd'hui, je vais étudier le texte de la Bible sur le passage de la mer Rouge. Déjà demain ou après-demain, déjà, le Midrashim de la Meshita avec le commentaire du Maharal. Et puis probablement vers la fin de la semaine prochaine, enfin vers la fin du séminaire, on reviendra si une vue est nécessaire sur le problème du déluge à proprement parler. Parce que je vois qu'on a mis ma conférence tout à fait à la fin, elle aurait dû être au commencement, donc on va commencer pour arranger, enfin peu importe. Et là, ce sera le sujet central, c'est-à-dire la relation entre le sens moral de l'histoire humaine et les cataclysmes naturels, appuyé sur le sujet du déluge. Vous voyez à peu près donc quel est le sujet de l'histoire. Et alors, rassurez-vous, le troisième séminaire, ce sera plus optimiste, je crois. Bien, alors ici, on va avoir besoin d'un certain nombre de versets dans le chapitre 13 de l'Exode. Et j'attends donc la deuxième page. Et dès qu'elle est là, on commence. Alors, lisez un peu attentivement jusqu'au verset 8. Maintenant, les midrashim seront sur le verset 15. ויאמר השם אל משה, מה תקפק אליי, דבר אל בני ישראל ויגדר. זה רק אותך פוזר לפרובלם, כי פסש למהרו של פרוקונות. Alors, ceux qui ont ces livres chez eux, pour les amener à partir de demain, si vous avez le commentaire du Malbim, dans le commentaire du Malbim, vous avez la Mechita, c'est-à-dire les textes du Midrash que nous aurons à étudier. Vous les aurez dans le texte du Maharal qu'on va vous photographier, seulement ils ne sont pas cités par le Maharal exactement comme ils sont dans les sources de la Mechita. Et ça, on a peur de confronter les deux saots, les deux formulations. Maintenant, si vous avez la Mechita elle-même, je suppose que tout le monde sait ce que c'est la Mechita. Bon, c'est un des Midrashim sur le livre de Shmuel. Vous avez entendu parler du Midrash Rabba, du Midrash Tanchuma. Et il y a d'autre part un Midrash qui s'appelle la Mechita. Et dont le Maharal s'est servi comme base pour son commentaire sur ce problème. Du passage de la terre. Alors, comme le séminaire finalement se situait entre Pourim et Pessah, ben, j'ai jugé qu'il allait mieux parler de ce sujet plutôt que du début, c'est déjà un peu en la grosse dose. Qui ne peut pas suivre sur le texte hébreu de la Bible? Vous êtes nombreux? Bon, alors vous suivrez sur le texte français parallèlement. Et vous serez obligé de corriger pratiquement tous les mots, mais vous êtes habitué. Mmh. Écoutez, sous forme d'introduction, je vais commencer par vous expliquer le premier thème que nous allons étudier. Vous arrivez à m'entendre ? Tout le monde ? Très bien. Non, mais c'est habituel, ça vient après. Nous avons un ouvrage de la Mechita qui dit que au moment où le peuple d'Israël se trouvait confronté à cette situation de pessimisme absolu, la sortie d'Égypte a eu lieu. Seulement, le pharaon s'est ravisé et envoie l'armée égyptienne. On se demande comment elle avait été rescapée de toutes les catastrophes d'Égypte et d'Égypte. Enfin, je prends le récit à ce moment-là. Le pharaon se ravise et envoie l'armée égyptienne à la recherche, à la poursuite du peuple qui venait à peine de sortir d'Égypte. Et nous allons voir comment le texte de la Bible dans Exode 13 présente le récit divin. Et donc, le peuple d'Israël, qui vient à peine d'être rescapé de toute cette longue histoire de l'exil d'Égypte, et après toutes les péripéties de la sortie d'Égypte à proprement parler, et comme vous le savez, la sortie d'Égypte à proprement parler, c'est-à-dire le fait que le peuple ne soit plus sous la domination et l'esclavage et l'asservissement de la civilisation égyptienne de ce temps, je vais revenir sur toutes ces définitions, et cet événement de la sortie d'Égypte est commémoré le premier jour de Pessah. Le premier jour de Pâques. Ensuite, il se passe 7 jours, et le 7e jour est l'événement du passage de la mer Rouge à proprement parler. Nous aurons à revenir sur toutes ces définitions, je crois que ce sera nécessaire, mais il y a là les deux commémorations différentes, de deux péripéties du même événement global, mais ce n'est pas à proprement parler le même événement. Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, et Kriyat Yam Souf, littéralement la déchirure de la mer Rouge, le passage de la mer Rouge. C'est groupé dans la même fête de Pessah, mais ce sont deux Yamim Tovim différents. Le premier jour, c'est Pessah à proprement parler. Le 7e jour, c'est une autre fête qui achève Pessah, mais deux niveaux différents du même phénomène, la délivrance, au temps de la fin de cette grande civilisation qu'a été l'Égypte de Pharaon, et où le peuple d'Israël était en dispersion et en fin de compte asservi. Et donc, après la sortie d'Égypte, à proprement parler, la Torah nous raconte un revirement du pharaon qui avait été impressionné, il faudrait trouver un mot plus fort, affolé, en particulier de la dernière visite d'Égypte, la mort du premier-né. Il laisse partir le peuple, mais finalement il se ravive et il envoie l'armée égyptienne à la poursuite du peuple. Et le peuple d'Israël va donc se trouver coincé entre un phénomène naturel qui fait obstacle, la mer, et puis un phénomène humain qui fait danger, l'armée égyptienne qui est lancée à la poursuite. Bon, et cette situation, je prends comme point de départ le midrash que je vais vous lire, dans la manière dont le Maharal l'a cité. J'espère que nous aurons l'occasion demain ou après-demain, peut-être la semaine prochaine, de voir le texte de la Mishnah lui-même, ce que l'exégèse de Tzag intéresse plus. Et on s'aperçoit, au bout du midrash, il y a eu 4 types de réactions différentes parmi les deux. Et vous remarquerez d'ailleurs, vous remarquez déjà par ce premier exemple, que cette division de l'identité d'Israël en 4 niveaux, en 4 genres, en 4 manières d'être, est un des thèmes centraux de tout le récit de la sortie d'Égypte et de la guerre de Pessah. En particulier les 4 enfants, et les 4 manières d'interroger le sens des événements. Et puis il y a aussi d'autres thèmes, je ne vais pas tout citer à la fois, mais retenez en tout cas que ces 4 qui sont 5. Et nous aurons peut-être l'occasion d'arriver au problème des 4 verres de vin qui sont en réalité 5 vers la fin du séminaire. Alors, je vous lis donc le Midrash avec un peu d'inquiétude dans la voix. Je ne sais pas ce que la secrétaire est en train de faire avec ce texte. Mon enfant prend la tête. Et ce Midrash que je vais vous lire est à propos du verset. Vayomer Moshe El Ha'am, Yud Gimel et Yud Aleph. Vayomer Moshe El Ha'am, et lorsque le peuple crie d'inquiétude, et nous verrons comment, de 4 manières différentes, cette inquiétude va être formulée par le peuple. Alors, Moïse dit au peuple, vous prenez à partir du verset 13 ceux qui ont les textes des livres. Les obstacles de Sèvres et les livres. Voyons, Mère Moshe Laram, qui m'ont vous écoutez la traduction. Et Moïse dit au peuple Al-Tiraou, ne craignez pas, Itiatez-vous, rassemblez-vous, Ouhou et Keshua Hashem, et voyez le salut de Dieu, littéralement, c'est-à-dire le salut que Dieu vous enverra. Mais nous reviendrons sur Yeshua Hashem. Asher Yahatel Achem Ayom, que Dieu fera pour vous aujourd'hui, qui, ta, Asher Reite, les Mitraïm Ayom, la manière dont vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, moi aussi fou, Irotam Rod Al-Olam, vous n'ajouterez plus, vous ne continuerez plus à les voir jusqu'à la fin des temps. Et verset 14, Hachem, Ilachem, Lachem, Dieu, guérira pour vous, Véhachem, Tachavichou, et vous, vous resterez silencieux. Excusez-moi, vous avez fait aussi cette expression. Mais il y a bien deux, hein? Ça va très bien. Elle est pour un hébreu, moi, pour vous. Bon, d'accord. Et où est-ce d'accord. Bon. Alors, en tout cas, là, vous allez avoir les deux pages en français de la Bible, qui vont pas les textes de Dieu, que je reviendrai en français. Tenez, vous voulez faire ça à deux, comme ça, ça va être très bien. Vous êtes au chapitre 14. Le début de la paracha, c'est le chapitre 13. On a besoin de chapitre 14. On lira la traduction telle que vous l'avez dans les livres et vous remettez sur ces textes. La référence des versets sur lesquels je vous cite la mère du temps. Vous avez là deux pages, 91 et 92. Alors, c'est à la page 92, vous êtes au chapitre 14 de l'Exode, et vous prenez le verset 13. Bien, c'est à peu près là. Vous pourrez d'ailleurs souligner sur le texte les différentes expressions que le Midrash correspond. Alors, je vais faire l'étude sur le texte des deux, mais vous référez à la manière dont. Le français vous est donné. Je lis le verset en français. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, attendez et vous serez témoins de l'assistance que l'Éternel vous procurera en ce jour. Certes, si vous avez vu des Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. C'est pas du tout ce qu'il y a dans le texte hébreu. Je reviendrai sur le texte hébreu tout à l'heure. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. Taharishun ne peut pas tenez-vous tranquille, ça veut dire rester silencieux. Bon, alors je reprends la traduction sur le texte hébreu, mais enfin vous référez sur le texte français. Un premier enseignement que je voudrais vous citer, le global, voilà ce que dit le verset, qui a si Hachère réité met Mitraïm, le fait que Hachère réité met Mitraïm ayom, la manière dont vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, et il s'agissait de quoi? Il y avait la mer devant le peuple, l'armée égyptienne venant derrière. Cet événement, cette préjudice, regardez bien cela, parce que l'autosif pour le Nirotam Rod, vous n'ajouterez plus de les voir encore à Olam. Alors je vais d'abord expliquer sur cette expression qui vous est traduite dans vos textes français par « Vous ne les reverrez plus jamais ». Al, on l'a. Littéralement, al, ça veut dire jusqu'à. Et le mot olam, en hébreu, signifie le monde, mais dans un sens temporel. Le monde, tel que nous l'employons en français dans le sens de l'univers, le cosmos, ce mot-là n'existe pas dans l'hébreu biblique. Il va exister dans l'hébreu rabbinique beaucoup plus tardif, et la différence de sens, c'est que le mot olam, le monde, dans l'hébreu biblique, ça signifie le temps que dure un monde. Mais un terme technique dans le vocabulaire de la théologie, c'est un néon. Et peu importe ce terme, c'est ce que je vais faire au codage, une époque, un temps que dure le monde. La manière de distinguer ces deux mots olam, dans le sens temporel et dans le sens spatial, on peut faire la différence. Olam, le temps du monde, ou bien olam, un monde, dans le sens spatial, c'est par le pluriel. Quand vous avez le pluriel masculin, olamim, c'est le pluriel de l'hébreu biblique olam qui signifie le temps d'un monde. Quand vous avez le pluriel féminin olamot, ça se réfère au sens olam de l'hébreu rabbinique qui vient du grec et qui signifie un monde dans le sens spatial. C'est clair ce que je veux dire. Et alors, jusqu'à la fin du temps que Dieu a ce monde. Vous voyez la dialectique de olam hazeh, le monde présent, olam haba, le monde qui vient. Et donc, nous avons une définition très précise du point de vue de la halakha. Le temps que dure un olam, c'est d'abord un jubilé. Et chaque fois que nous avons inversé que la halakha l'utilise pour un thème donné en disant jusqu'à la fin de ce monde, c'est jusqu'à la fin de l'époque des 49 années, la 50e, qui sont un jubilé. Le second de ces données, ça c'est le sens de base. Et cela a été élargi à la notion de olam hazeh selon ici jusqu'au temps messianique. Le monde qui commence au premier homme jusqu'au fils de l'homme au temps messianique s'appelle ce monde-ci. Et ensuite, olam haba. Voilà le sens que tout ça fait. Ce monde-ci, ça veut dire le temps que dure le monde depuis le commencement de l'histoire humaine avec le premier homme jusqu'au temps messianique. C'est olam haba. Olam haba, c'est le monde qui suivra. Mais ça a été toujours pensé dans les biblique, dans la perspective temporelle. Le temps que dure le monde. Par exemple, l'expression. Je ne sais pas connaître peut-être dans le verset, qui met Olam, verra Olam, Ata El, de monde en monde. Mais ça n'a jamais eu, premièrement dans l'époque biblique, un sens spatial, mais un sens de temps d'un monde. Alors si nous reportons ce sens-là à notre verset, ça veut dire que les Hébreux à la sortie d'Égypte ont assisté à une scène où leur existence est en danger du point de vue de l'Égypte, et le texte dit regardez bien cette situation, vous ne la reverrez plus. Ad olam, jusqu'à la fin de ce temps du monde. Comme s'il y avait là un rendez-vous pour un certain temps où de nouveau cette situation apparaît. Ça c'est la lecture chaque texte biblique. Je pense qu'il n'y a pas de problème d'interprétation, c'est de chaque dire. Anciennement, c'est que tout se passe comme si, je parle avec nuance, mais enfin, vous comprenez l'importance du problème, tout se passe comme si ce rendez-vous était pour notre temps. Puisque depuis la sortie d'Égypte jusqu'à notre temps, on ne s'était jamais retrouvé dans cette situation-là où il y avait menace de la destruction d'Israël par l'armée égyptienne. En quelle année exactement, peu importe, mais les événements que nous sommes en train de vivre. Vrai problème. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que tout se passe comme si nous sommes arrivés à ce temps de... à la fin du temps d'un monde. Et ce que j'essaye de faire comprendre, c'est la signification de l'événement. Il faut bien s'habituer à cela, c'est un grand problème de l'exégèse du Midrash. Pourquoi la Torah a jugé nécessaire de nous transmettre comme préface à la loi, à proprement parler, ce récit de l'histoire de la constitution d'identité d'Israël à qui cette loi a été donnée? C'est pas seulement pour nous faire savoir quelle a été la préface du passé, mais c'est pour nous faire comprendre quelle est la structure de notre identité historique. Et par conséquent, bien entendu, pendant des siècles, il était important de savoir le sens de ce qui s'était passé. Mais précisément parce que ce qui s'était passé dévoile, dans une certaine occurrence, la structure de l'identité qui est propre au thème d'identité d'Israël, et nous en avons un exemple ici. C'est-à-dire que ces événements se retrouvent pas du tout dans la même forme, mais dans la même identité. Alors là, il y a une indication extrêmement importante. Ça veut dire que cette expérience de la fin d'un temps d'exil et de la menace d'une catastrophe à ce moment-là, le texte nous prévient, assistez bien à cela, n'oubliez pas, parce que ça se reproduira. Vous ne le reverrez plus comme ça, dans l'âme. Mais dans l'âme, vous le reverrez. Alors ce que j'ajoute, c'est que nous les avons revus. Donc c'est que nous sommes en ce temps-là. Est-ce que tu viens? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est le sens, encore une fois, de l'événement. Je reviendrai d'ailleurs sur les implications théologiques de cette remarque. La base de la foi, de la émouna dans la tradition biblique, c'est l'événement. Et l'événement historique. Bien. Et il faut être surtout sensible au caractère massif de l'événement. Pendant 3600 ans, nous avions ce verset en l'air, je veux dire, subitement, il se concrétise de notre temps. Alors on voit ou on ne voit pas, mais en général, si on a des yeux, on voit. Bien, je vous avais une question posée rapidement pour vous. Pas plus fort. Ça veut dire que le temps. Oui, je réponds. Le temps, j'appelle le sens du chat, le temps du monde qui commence à la sortie de l'Égypte, bien une espèce de rendez-vous, s'achèvera lorsque la même péripétie recommencera. Or, elle est recommencée. Elle a été recommencée. Je crois que c'est surtout la guerre du Sinaï qui a montré cet événement-là. La guerre du Sinaï, peut-être la guerre des 6 jours, plus. Et on a de nouveau revu l'armée égyptienne comme menace de la destruction d'Israël à la fin de son exil. Et puis, ça veut dire que ce temps du monde qui s'appelle Olam, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la fin de l'exil, eh bien, s'achève de notre temps. Puisque le verset dit très clairement, voilà le signe dans l'événement de revoir l'armée égyptienne sous dans la même menace. Je pense que c'est clair ce qu'il y a dit. Ce que je voulais mettre en évidence pour bien comprendre cet enseignement, c'est le sens de l'hébreu biblique du mot Olam. Ça n'a jamais voulu dire un monde dans le sens de cosmos. L'expression biblique, c'est Shamaim Vaaretz, les cieux et la terre. Mais le mot de monde, mondus, mondus en latin, mais cosmos en grec, est intégré dans l'hébreu rabbinique tardif. Et là, vous avez le pluriel Olamot. Par exemple, le Olam Abriya, le Olam Yetzira, le Olam Asiya, dans ces expressions-là. C'est un peu le sens que vous avez peut-être en littérature, dans l'histoire de la littérature, le monde des idées du XVIIe siècle, le monde du XVIIe siècle. C'est un peu plus abstrait que simplement spatial, cosmique. Ça, c'est Olamot, avec une pluriel féminin. Mais Olamine, c'est des temps que dure un monde. Une époque, une ère. Ça, c'est de ça dont il faut se rappeler. Alors, les traducteurs, à travers les siècles, on choisit des nuances de l'expression, chaque fois pour dire un peu, préciser leur pensée. Par exemple, « Adrolam », vous trouvez beaucoup de traductions avec « à jamais ».« À jamais », c'est-à-dire « il n'y a pas de fin », »,« il n'y a pas de fin », »,« toujours ». Ou bien, comme on vous a traduit ici, « vous ne le reverrez plus jamais ». C'est un, comment on dit, une erreur de traduction, je ne sais pas sur les signes ni barbariques. Un faux sens, hein? Le texte hébreu n'a jamais voulu dire qu'on ne le reverra plus jamais. Ça veut dire « vous ne le reverrez plus » jusqu'au moment où arrive Alors, ceux qui sont un peu familiers avec moi, déjà, si vous entendez la différence de sens, il y a un abîme. On parle d'un autre livre. Bien. L'Olam va être, ça veut dire tant que dure ce monde, va être, l'Olam, et encore après. Voilà. Lorsque l'hébreu, je parlais d'une époque, d'une ère. Alors, il emploie le mot de Olam dans le sens temporel, le pluriel est Olamim. Ou l'Olamé Olamim. Et dans le temps des temps des mondes. Mais c'est dans le sens temporel. Tandis que, lorsqu'on veut dire les mondes dans le sens spatial, le pluriel c'est Olamot. Par exemple, la faute de l'homme m'a arich Olamot. Secoue les mondes. C'est-à-dire, la faute de l'homme a des retentissements dans tous les niveaux du monde. Alors ça, c'est Olamot, Maharish, Olamot. Mais l'éternité dure les Olmé, Olamim. Elle traverse le temps des mondes. Et je pense que c'est, si Si vous voulez, dans cette traduction, on est passé un peu inconsciemment, et inévitablement peut-être, du registre hébraïque qui est temporel au registre grec qui est spatial. Et donc, on a traduit le mot olam dans le sens de temps, on l'a traduit dans le sens de monde, dans le sens spatial. Donc, est-ce que finalement, c'est un détail, mais important, mais...
Et quand on traduit par l'univers, est-ce que c'est l'aspect l'univers spatial et temporel?
Alors écoutez, l'univers, c'est une expression grecque qui est très proche de la mentalité hébraïque qui est exprimée dans l'expression les cieux et la terre. Je pense que l'étymologie est très proche de l'hébreu, cette étymologie du mot univers. C'est l'unité de l'univers, l'ensemble, l'universel. Mais ça a évidemment d'abord un sens spatial. Bon, il n'y a plus de questions sur ce point. Bien.
On peut traduire par Mele Haolam.
Oui, Mele Haolam.
Par le roi de l'univers.
Oui, mais ça a un sens temporel en effet. Alors que le mot de l'univers en français a plutôt un sens spatial. Ça veut dire que la royauté, la souveraineté du Créateur sur le monde dans lequel nous nous trouvons. Melef Haolam. Et il est bien évident qu'il faut rattacher d'abord le mot hébreu à son sens hébraïque, avant de le rattacher à l'implication du mot choisi pour la traduction. Or, Melef Haolam, dans la mentalité rabbinique, ça veut dire que la souveraineté de Dieu, Créateur du monde, sur le temps du monde dans lequel nous nous trouvons. Alors maintenant, on peut ajouter, bien sûr, l'idée de Aolam Kulo dans le sens cosmos. Mais c'est dérivé. C'est second, à mon sens. Bien. Et voilà donc ce que va nous dire le Midrash à propos donc, de cet événement. Le thème général que j'avais en filigrane de toutes ces études, c'est l'intuition fondamentale de la tradition biblique qu'il y a une raison d'ordre moral lorsqu'il y a une menace de cataclysme. Et là, nous nous trouvons dans un univers mental et spirituel très différent de la mentalité de la culture contemporaine. Je crois que l'intérêt de ces études sera de confronter ces deux attitudes mentales. Mais ça, nous verrons beaucoup plus en détail dans les conférences qui suivront ce soir. En fin de cours, ce matin, on décidera quel est l'horaire qui nous arrange le mieux et la manière de travailler. Pour le moment, c'est les prolégomènes à la prépa de la langue propos. Alors voilà ce que dit la mairie. Devant cette terreur du peuple, on est dans une impasse. Tous les événements précédents qui avaient permis la sortie d'Égypte risquent d'être annulés. Parce que l'armée égyptienne est derrière le peuple, et devant il y a la mer, et on est démunis. Une des questions qui se pose tout de suite à la lecture de ce récit, c'est que, apparemment, cette inquiétude, cette panique est injustifiée. Parce que le peuple vient d'avoir l'expérience que Dieu intervient pour lui. Il y a une providence particulière qui a permis les événements de la sortie. Et comment se fait-il qu'alors qu'il vient d'expérimenter dans les jours précédents la fin des dix plaies et ce miracle de la possibilité pour un peuple tellement asservi du dedans de la société égyptienne de pouvoir s'identifier et sortir à la liberté? Et voilà qu'il y a une péripétie de plus, l'armée égyptienne qui vient à la poursuite d'Israël, bon, il y aura un miracle de plus. Pourquoi une telle panique? C'est la question que je vais laisser. Que se passe-t-il dans le cœur ou dans la pensée des Hébreux à ce moment précis qui nous fasse comprendre pourquoi il y a une telle inquiétude? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un miracle de plus, puisqu'il y en a déjà eu tellement? Ça, nous le verrons à la longue à travers toutes les années. Alors je reprends une dernière fois ce qui vient d'arriver, le verset 13. Vous suivez parallèlement la lecture que je vous donnais à partir de l'hébreu, et ce que vous avez dans votre texte, la page 92, le verset 13 du chapitre 14. Voilà ce que dit le verset hébreu. Vayomer Moshe Elaham, et Moïse dit au peuple, Al Tiraou, n'ayez pas peur, ne craignez pas, Al Tiraou. Ikiasehu, ouhou. Tenez-vous là, rassemblez-vous, ouhou, et regardez et voyez, et Yeshua t'achève le salut que Dieu fera pour vous, littéralement, mais je reviendrai sur une autre traduction par la suite. Ici, on traduit, et vous serez témoin de l'assistance que l'Éternel vous procurera, ça c'est un peu faible. Le mot hébreu Yeshua, ça veut dire vraiment le salut. Et ça doit être entendu, au niveau naturel, au niveau du déterminisme naturel, il y a catastrophe éventuelle, mais la Yeshua, c'est d'être sauvé au-delà de cette menace du fonctionnement impersonnel des lois du déterminisme naturel. La Yeshua est au-delà, c'est une rupture de l'homme. C'est littéralement l'idée de salut telle qu'elle est exprimée en français à partir du mot latin, étymologie. Yeshua. Donc, assistance, c'est un peu faible. Vous voyez la différence. Que Dieu fera pour vous aujourd'hui, Hachel Yarasel Achemayom, qui, car, Hachel Réité, Métisraïmayom, la manière dont vous avez eu l'Égypte aujourd'hui, l'autosifou, vous n'ajouterez plus, l'Irotam, Rod, de les voir, l'Égyptien, Rod, encore, avant l'âme, jusqu'au moment de la fin du temps de ce monde. Pourquoi j'ai tout de suite ajouté que nous sommes une génération privilégiée sans doute, puisque nous avons assisté aux mains de l'homme. La seule différence, je pense, c'est que les Égyptiens n'avaient pas les mêmes souliers. Ça, c'est une idée à quoi je fais allusion. Bien. Disons les mêmes chaussures, la jure. Peut-être. Alors, la Mechita dit ceci. Amrou Hazar, nos mères ont enseigné.
Est-ce qu'il nous manque des chaises? Mais pas trop.
Ah. Et après, je vous donnerai les deuxièmes feuilles pour qu'on puisse commencer déjà à étudier sur eux. Amrou Hazar, nos maîtres ont enseigné Arba Kitot Naasu Israël Alayam. Israël s'est divisé en quatre groupes, en quatre types de réactions. Vous voyez donc ce thème des quatre, qui sont cinq, je vous avais dit tout de suite, qui apparaît déjà aussi dans ce problème. Achat Haïta Omeret, la première disait Nipol Layam. Eh bien, nous allons nous jeter dans la mer, tombons dans la mer, suicide. C'est-à-dire, finalement, nous sommes arrivés à l'extrême point de l'espoir d'être sauvés, et après toutes les péripéties précédentes, où nous avons chaque fois cru que c'était possible d'être sauvés, jusqu'à la sortie d'Égypte elle-même, nous sommes dans une impasse, catastrophe éventuelle, eh bien, il y a un fléchissement de la foi, plus qu'un fléchissement, un effondrement de la foi, eh bien, disparaît. Qu'on arrête cette histoire, qui est une histoire qui semble ne pas avoir vu. Ça, c'est la première, le premier mot. Vous suivez? Nipol Layam. La Chat Aïta Omeret, une autre partie du peuple disait Nahzo le Mitzraïm. Retournons en Égypte. Déjà la Yerida. La Chat Aïta Omeret, la troisième partie disait Naase Imaem il Hama. Faisons-leur la guerre. Vous voyez les trois niveaux. Premier niveau, renoncement. On se jette dans la mer. Deuxième, Masada. Je ne sais pas comment. Deuxième niveau, on retourne en Égypte. Troisième niveau, eh bien, on fait la guerre. L'achat a été emmêlé, mais ça veut dire qu'elle nous allons prier, mais en criant, de telle sorte de les affoler par notre prière. Vous voyez les quatre. Alors, quatre stratégies, enfin, si on peut appeler ça stratégie de chirurgie. La première, elle est négative, le suicide. La deuxième, le renoncement. Eh bien, on accepte les conditions de l'Égypte. La troisième, la guerre. La quatrième, la prière. La prière d'une certaine manière. Alors, la Mechita continue. Zoche Amra Nipol Layam, à la partie du peuple qui avait dit nous nous jetterons dans la mer, Aya Omer, Dieu l'a visé, il tient vous, ou vous, et Yeshua Tachem. La première partie du verset 13. Tenez-vous là, rassemblez-vous, et regardez le salut que Dieu fera pour vous. Vous pouvez mettre ça en parallèle. Les Zouches a été emmêlé par Zoh et Israël, à la partie du peuple qui disait nous retournerons en Égypte, ayant Omer Lahem, ce verset continue, et donc dit pour eux en particulier, Kacher et Item Israël Mayom, comme vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, vous ne le verrez plus jusqu'à la fin de l'Égypte. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose. Donc, je continue. La troisième, Zoche a été emmêlé par Asen Ilhama, la troisième partie du cœur qui disait nous ferons la guerre, Aya Omer, Hachem il Hachem Lachem. Le verset répond, c'est Dieu qui fera la guerre pour vous. Les Zoche et Amroud ne savaient à Kenegdam, et ceux qui ont dit nous allons prier contre eux, Aya Omer, Vatem Taharishu. Le verset finit en disant, et quant à vous, restez silencieux. Ça veut dire que, finalement, selon le Midrash, ces quatre stratégies sont refusées. Bien qu'elles soient au même niveau de mérite, disons, du mérite du point de vue du problème, de la capacité de foi, malgré tout, ce que nous dit le Midrash est très clair. Ces quatre stratégies proposées sont refusées. C'est donc qu'il n'y a qu'une cinquième qui peut être authentique. Alors, vous voyez premièrement la structure de l'enseignement, quatre attitudes qui culminent dans une cinquième. Et cette cinquième attitude, nous l'aurons dans l'étude plus en détail qui commencera demain avec le texte du Maharal, que vous avez donc sur le verset suivant, c'est-à-dire le verset 15. Voyons mes Rachem et Moshe, et Dieu dit à Moïse, Ma Titzrak Elai, pourquoi cries-tu vers moi? Nous étudierons Rachid qui met en évidence une implication. Cela implique que Moïse se préparait à prier. Saraka, c'est la prière que l'on clame, pas seulement la prière que l'on prie, mais Saraka, c'est une prière. Crier, c'est pas joli en français, mais clamer. Mati Rakelai, pourquoi me prie-tu, je traduis donc comme ça, d'avoir donné Israël, parle aux enfants d'Israël, Veïsaou, qu'ils avancent dans la mer. Vous voyez donc, les cinq niveaux que je vais récapituler, une minute. Premier niveau, ceux qui disent on est perdu, alors autant arrêter cette histoire, on se suit. Deuxième niveau, nous ne sommes pas les plus forts, peut-être que dans un autre temps, dans une autre éternité, mais en tout cas dans l'occurrence historique que nous vivons maintenant, c'est perdu, retournons en Égypte. Il vaut mieux encore servir les Égyptiens que de se suicider dans la mer. Et vous relirez, pour les cours suivants, tout le contexte du chapitre 13 et 14, qu'est-ce qui se passe un peu dans la mentalité de ces quatre niveaux. Ce qui est frappant, vous le devinez par vous-même, c'est que nous vivons de nouveau la même problématique. Dès que l'occurrence de la catastrophe arrive, alors ces quatre réactions apparaissent. La troisième, faisons la guerre. La quatrième, prions. Et puis, le Midrash nous dit que Dieu refuse ces quatre-là. Et elles ne sont pas toutes entièrement négatives. Vous voyez qu'il y a des niveaux d'acquisition de capacité de foi de plus en plus grandes. Et finalement, c'est la cinquième qui est indiquée. Laissez tomber toutes ces stratégies-là, rentrez dans la mer. D'abord, Ben Israël, Ben Israël. Vous voyez à peu près donc la partie. Alors, ça nous fait apparaître une structure de la division du peuple en quatre parties qui sont cinq, qui mènent à une cinquième, quatre niveaux qui mènent à une cinquième, mais qui nous est annoncé par le récit biblique dès le commencement du récit. Et c'est là que nous allons reprendre le début de la paracha de Vaïchlar, c'est-à-dire, si j'ai les feuilles sous les yeux, cette première phrase-là qu'on vous a donnée tout à l'heure, Vaïchlar Pharaon, à partir du verset 10 du chapitre 13, et la deuxième qu'on va vous donner maintenant encore au début. Voilà, donc quel est le sujet précis par lequel nous avons commencé, à l'aide de ce mirage de la Mercuta. Après, bien sûr, nous verrons comment le Maharal explique ce mirage de la Mercuta. Pourquoi Dieu refuse les quatre premières stratégies et ordonne la cinquième. Et donc, à partir de ce mirage, nous avons cet enseignement que le peuple est divisé en quatre niveaux qui mènent à un cinquième. Et je vais essayer de vous montrer, dans le début du récit de cet événement, que c'est effectivement cette structure-là qu'annonce le texte. De la Bible. Alors, vous avez la première page avec le français correspondant, et maintenant, on va vous distribuer la deuxième. En attendant la distribution, je crois que si vous avez des questions, on va prendre un mot. S'il y a des volontaires sur la distribution, vous avez une partie en français. Et voilà, on pourra commencer à travailler juste après. Ok. Oui, mettez-vous à deux d'ailleurs, à le français. Allez. Les quatre. Oui. Non, ça c'est la troisième. Il y a une intuition. Vous avez compris la question, c'est-à-dire le chat du verset met en évidence apparemment plutôt cette attitude-là. Avant de voir donc ce premier point, je reprends un peu l'analyse générale pour vous aider à vous introduire dans le sujet. C'est-à-dire, ce que nous avons à comprendre, c'est en quoi ces quatre réactions à la menace de la catastrophe, qui va se dénouer par le passage à mer Rouge, mais ça va rester quand même un événement catastrophique pour les Égyptiens. C'est quand même, dans tous les cas, une catastrophe cosmique, naturelle, si vous voulez, qui apparaît pour dénouer une situation historique. Ce que nous avons à comprendre en particulier, c'est pourquoi ces quatre attitudes impliquent, d'après le contexte du récit, un manque de foi. Même celle de la guerre, même celle de la prière. Nous avons ça, donc, il en est. Voilà. Alors, je vous ai demandé tout au début de reprendre les 8 premiers versets, nous allons les lire ensemble. Okay. Et même pas. D'accord. Très bien. C'est une des questions qui vont se poser à nous. Non? Oui, mais c'est comme Moïse l'a dit, il n'y a plus qu'une seule solution, rentrer dans la mer. Il y en a un seul qui rentre. Non, pas vraiment, il y en a un qui rentre le premier. C'est Marchum vers Aminata. Bon, ça y est, tout le monde est installé. Alors nous allons prendre donc le premier verset. Vous allez noter soigneusement, vous pouvez écrire sur les textes, si vous voulez, pour vous habituer. Vaï, Béchalar, Paro et Taram. Je vous lis cette traduction-là, bien qu'elle soit aussi pas tellement appropriée, mais peu importe au moment, pour vous ayez les éléments du problème. Il arriva, Béchalar, Paro et Taram, lorsque le peuple, lorsque le pharaon eut renvoyé le peuple, l'on vous a dit quand pharaon veut partir le peuple. Alors vous soulignez, le premier mot est Aram. Vaïhi, Béchalar, Paro et Aram. Lorsque le pharaon renvoya le peuple, Velonacham Elokim, Devecheret Rigdim,